Allô Monique.
Bonjour, bonjour à nouveau.
Oui, ben oui. Allez, on va parler de casse-tête. Alors, comme je l'ai dit tantôt, si vous faites des casse-têtes, assurez-vous que si vous le faites, faites-le quelque part où le chien n'aura pas accès aux morceaux.
Le chien ou le chat.
Le chat aussi, c'est vrai.
Parce qu'ils ont, la manie avec leurs petites pattes là, de faire bouger plein de choses sur nos bureaux.
Oui,
alors, le casse-tête porte vraiment bien son nom parce que c'est une activité ludique qui fait travailler plusieurs zones du cerveau simultanément. D'ailleurs, en 2020, durant la première période du confinement, le fabricant de casse-tête Ravensburger, un des plus gros acteurs de l'industrie, il a vu ses ventes augmenter de non moins que 370% les amis aux États-Unis.
Ça a fait des morceaux de casse-tête, faut pas les mêler tout ensemble.
Oui, alors on le devine, hein, l'isolement puis le besoin de s'éloigner des écrans après de longues journées de télétravail ou d'école à la maison, ça a incité de nombreuses personnes de tous âges à renouer avec ce passe-temps ou tout simplement vraiment le découvrir. Depuis, bien que la vie a repris son cours, l'engouement, semble-t-il, ne s'est pas tari. Ils sont encore plus populaires que pendant le confinement parce que les gens qui ont commencé à en faire à cette période continuent. Et ça, c'est une affirmation d'une historienne des casse-têtes, hein, et elle se nomme Anne Williams. Elle a d'ailleurs publié un essai qui s'appelle « The Jigsaw Puzzle, Piecing Together a History ». Alors, si ça vous intéresse, de découvrir l'histoire du casse-tête. Alors, sur les réseaux sociaux, diverses célébrités même, on pense au comédien québécois Théodore Pellerin ou à l'écrivain Stephen King, ont partagé des clichés les montrant avec le fruit de leur labeur. Alors, je pense qu'il faut se réjouir de la montée en popularité des casse-têtes. Derrière son apparente simplicité, cette activité mobilise de nombreuses habiletés cognitives, démontre une étude allemande publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience en 2018. Cette étude, menée par le chercheur en neurosciences et en psychiatrie Patrick Fissler, est la première à s'être penchée rigoureusement sur les effets de casse-tête sur le cerveau. On peut notamment y lire que la régulation des émotions pénibles par la pratique des casse-têtes pourrait prévenir des états de stress chronique qui peuvent avoir un impact négatif sur le vieillissement cognitif et la démence à long terme. Rien de moins, les amis. Alors, attention, prévient toutefois le chercheur, ces effets varient d'une personne à l'autre. Pour certains des participants à l'étude, c'était très relaxant, mais pour d'autres, ça restait une activité frustrante ou carrément désagréable.
Ah oui, surtout si on le fait avec quelqu'un avec qui on se dispute habituellement, notre conjoint.
Vraiment, ça n'ira pas bien.
Oui, on disait que, tu sais, parlant de casse-tête, c'est les meubles IKEA, c'est tout un casse-tête à monter. Alors, on disait que si vous montez, si un couple monte un meuble IKEA sans se disputer, c'est clair qu'ils vont rester ensemble très longtemps.
Oui, c'est un test.
Oui, mais maintenant, il y a les indications papier qui sont un peu douteuses à certains moments, mais il y a toujours une petite vidéo sur YouTube qui peut nous aider à réaliser la chose. Mais pour les casse-têtes, c'est autre chose. Alors, chez les personnes de la première catégorie, les bienfaits des casse-têtes sur la santé psychologique sont indéniables. Alors, un exemple, quand son fils de 21 ans est décédé en 2018, c'est la seule chose que Sonia Boivin était capable de faire et qui l'apaisait. Tout le reste lui demandait trop de concentration. Elle n'a pas arrêté depuis. Et ça l'aide encore. Et plusieurs mordus des casse-têtes soutiennent que ce loisir leur permet de ralentir et de se détendre. Placer un morceau de casse-tête au bon endroit, c'est perçu comme une récompense par le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau sécrète de la dopamine. Et on le sait, la dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est un neurotransmetteur qui procure ce beau sentiment de satisfaction. Alors, c'est aussi une tâche qui requiert une grande concentration sur une longue période, ce qui maintient un état semblable à de la méditation, nous dit toujours notre chercheur Patrick Fissler. Alors, bien qu'ils contribuent à la détente, les casse-têtes ne peuvent se substituer aux anxiolytiques pour traiter les troubles anxieux. Nuance toutefois, le neuropsychologue québécois Mathieu M. Blanchet, qui se spécialise dans l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux et de troubles neuroacquis. Ça, c'est ce qui résulte d'un dommage ponctuel au cerveau. Leurs bienfaits sont vraiment dans l'effet du moment présent. C'est un moment d'arrêt où il n'y a pas de pression. Ça amène le cerveau dans une phase de pleine conscience. Le cerveau peut alors enfin se mettre à se relaxer, ce qui permet au corps de se désactiver, de se désengager et de moins sécréter de cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress. Mmh. Alors, déplorant le peu d'intérêt à financer ce genre d'études, puisque les gens font déjà des casse-têtes, Patrick Fissler a pu mener son projet grâce au soutien financier du fabricant Ravensburger. Mais il faut souligner qu'il n'a nullement été impliqué dans le processus. La seule chose qu'il a fait pour notre chercheur Fissler, ben, c'était de fournir les casse-têtes employés par les participants et participantes à l'étude. Alors, cette étude a été menée auprès de 100 personnes de plus de 50 ans, peu familières avec cette activité. Toutes ont reçu de l'information sur la prévention du déclin cognitif et ont signalé les changements qu'elles ont apportés ou pas à leurs habitudes de vie. En même temps, la moitié de ce groupe devait faire des casse-têtes pendant 5 semaines à raison d'au moins 1 heure par jour. Les cobayes et les participants ont assemblé en moyenne 3589 pièces en 49 heures. Et de cette analyse, les chercheurs ont établi une très forte corrélation. Les personnes qui ont fait beaucoup de casse-têtes ont de meilleures habiletés cognitives. Comment ça s'explique? Ben, ça s'explique par le fait que la pratique des casse-têtes stimule jusqu'à 8 fonctions cognitives simultanément. 1, la perception visuelle, c'est-à-dire reconnaître des objets et des motifs. 2, la praxie constructive, ça veut dire reconstituer un tout à partir d'éléments séparés. 3, la rotation mentale, on fait pivoter mentalement les pièces. 4, la rapidité cognitive. Et 5, le balayage visuel, ce qui veut dire trier les pièces. 6, le raisonnement perceptif. Ça veut dire intégrer différentes informations pour élaborer des stratégies. Hein, on commence par le contour. 7, la flexibilité cognitive, alterner différentes stratégies. Et 8, ainsi que la mémoire du travail et épisodique, c'est-à-dire retenir l'emplacement spatial et les images du casse-tête. Alors, lorsqu'on regarde un morceau de casse-tête, l'information se rend d'abord dans les yeux pour ensuite atteindre le lobe occipital du cerveau. Ça, c'est situé derrière la tête, là, juste au-dessus du cou. De là, elle circule dans la voie ventrale et la voie dorsale du cerveau. C'est aussi les parties arrière du cerveau. La première traite l'image et la deuxième, son emplacement. C'est donc un travail très complexe et conséquemment très stimulant pour le cerveau parce qu'il doit intégrer ces informations pour s'en servir par la suite. Mais il faut vraiment prendre l'activité au sérieux et s'engager à long terme si on veut qu'elle ait un effet bénéfique sur le cerveau. Patrick Fissler et son équipe ont ainsi calculé qu'une personne doit assembler au moins 9100 morceaux de casse-tête par année pour en ressentir les bienfaits sur le plan cognitif. La recherche démontre par ailleurs que les bénéfices sont directement liés au niveau de difficulté du casse-tête, vous vous en doutez bien.
Ouais.
Alors, il vaut mieux faire 9 casse-têtes de 1000 morceaux par année que 90 200 pièces. Mais 1000 morceaux, là, c'est quelque chose, hein?
Oui. Faut vraiment, ça demande beaucoup de concentration.
Ouais,
puis habituellement, on le fait pas dans une seule journée non plus. On fait ça sur plusieurs jours.
Ouais, peut-être sur 2 jours. Là, moi, j'en ai fait un, le plus récent, de 500 morceaux. Là, j'avais hâte de finir.
Alors est-ce que ça pourrait jouer aussi sur la capacité de patience?
Peut-être. Oui, tout à fait. Oh là là. Chez les personnes âgées, les résultats de l'étude, toujours menée par Patrick Fissler, avancent l'hypothèse qu'en stimulant plusieurs zones du cerveau, ben, les casse-têtes auraient le potentiel de ralentir le déclin cognitif ainsi que les symptômes de démence et d'Alzheimer. Mais bon, cet effet est limité. On ne peut pas arrêter le déclin cognitif, mais peut-être le ralentir ou en tout cas stabiliser la situation, surtout si on a des prédispositions à la démence ou à l'Alzheimer. Mmh. Donc, Monsieur Blanchette nous dit que c'est comme un muscle, hein, le cerveau. Alors, il faut, oui, c'est des entraînements cognitifs, mais il faut aussi, alors, on le répète, une hygiène de vie saine qui comprend notamment une alimentation variée, un sommeil régulier, de l'activité physique et des interactions sociales. Donc, peut-être qu'il faut faire des casse-têtes. À vos casse-têtes, les amis, mais oui. Peut-être avec des amis.
Avec des amis, des avec qui on s'entend amis. Bien.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais je ne sais pas si vous connaissez le pianiste Richard Abel, j'ai écrit sa biographie. Et quand j'allais visiter Richard pour faire des entrevues, il avait une panoplie là, de mots croisés. Il était cruciverbiste. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Et il travaillait beaucoup, beaucoup là-dessus. Et Richard est un petit peu plus vieux que moi. Puis, tu sais, il me disait que ça l'aidait beaucoup dans sa mémoire aussi. Puis, c'était un passe-temps incroyable pour lui. Alors, ouais. Ça aussi, j'imagine que ça doit avoir des effets assez bénéfiques. Là. Je pense qu'il y a des études là-dessus aussi.
Oui, aussi. Mais le casse-tête, hein, c'est tout, quand je vous disais les 8 fonctions là, oui. Qui sont stimulées, c'est quand même assez important. Dernière petite chose, peut-être, oui. Vous dire, qui a inventé le casse-tête?
Ah, j'aimerais ça savoir.
Alors, c'est John Spilsbury, c'est un graveur londonien et il a fait ça en 1750 à peu près. Il servait strictement d'outil éducatif, c'était des cartes géographiques. Assembler les pièces aidait les enfants à mémoriser les lieux.
Ah ben.
Alors voilà.
On va en musique, puis on revient avec des brèves. Monique, il paraît que les jeux peuvent-ils mener aux maths?
Oui, ben oui. Les jeux de construction comme les Lego devraient être encouragés, et ce, à la garderie, pour favoriser au primaire l'apprentissage des mathématiques. Et tout ça, c'est selon Nora Newcomb, qui est psychologue de l'Université Temple, qui a consacré sa carrière à ce sujet. Plusieurs études ont montré que la capacité de manipuler et comparer mentalement des objets, appelée habileté spatiale, est au deuxième rang des facteurs de succès en mathématiques, en tout cas aux États-Unis, après la capacité de parler anglais et bien avant la richesse et l'éducation des parents. Les habiletés spatiales ne sont pas innées, elles sont acquises par les jeux de construction ou certaines activités, alors là je vais vous surprendre, comme remplir le lave-vaisselle.
Ah ouais.
Mais pas n'importe comment.
Ah oui, c'est ça, hein? Il y a une manière.
Ouais. Il y a une manière. Ah oui, oui, oui.
Moi, j'avoue que j'aimerais ça que le lave-vaisselle se remplisse tout seul, ça serait tellement plus agréable.
Ah, moi c'est surtout le déremplir qui... Il faudrait que ça soit fait.
Moi, j'ai un petit petit chien.
Ah, mais si vous rangez bien, ça se déremplit bien.
Oui, je sais.
Moi, j'ai un petit chien, ça fait qu'il ne peut pas faire le job, mais j'ai un ami à moi qui a un gros chien. Je pense que c'est un... Ah, mon Dieu, un labrador. Il appelle ça le cycle de pré-rinçage. Le chien, il lèche la vaisselle.
Avant de la laver.
Avant de la laver.
Oui, oui, tout à fait. Bon, alors donc, le lave-vaisselle et les jeux de construction.
Comme Lego. Les Lego. Voilà.
Bon. Oui.
Je suis tout à fait d'accord.
Moi, j'aimais beaucoup les Lego quand j'étais tout petit.
Oui,
j'aime encore ça aussi maintenant. Mais, on dira, mais ça coûte cher. Ça coûte cher.
Oui, il y a un marché secondaire pour ces choses-là. Hein.
Ah, puis c'est vrai que ça se fait voler là, aux États-Unis. Puis, mm-hmm. En tout cas, ouais. Monique, est-ce qu'on oublie-t-on la musique?
Eh bien, une fois gravée en mémoire, elle y reste, Denis Martin, et on le reconnaît immédiatement quand on les entend. Que ce sera de l'âge de 18 à 80 ans. Donc, l'âge n'a pas d'effet sur la capacité à se souvenir d'un morceau. Comme si la mémoire musicale était préservée de l'inexorable déclin cognitif dû au passage du temps. L'étonnante découverte a été faite, ou en tout cas confirmée, par une équipe de chercheurs canadiens qui ont le mérite de s'être basés sur une expérience en conditions réelles durant un concert. Alors, ils ont testé 90 spectateurs sur leur capacité à reconnaître un air très célèbre, une petite musique de nuit de Mozart ou des morceaux inédits spécialement composés pour l'occasion. Alors, résultat, ni l'âge ni la formation musicale ne changeaient quoi que ce soit aux performances, donc de la mémoire. Seule la familiarité avec le morceau comptait. La sérénade de Mozart était beaucoup mieux reconnue que les deux autres, de quoi, selon les chercheurs, envisager de nouvelles thérapies utilisant la musique pour renforcer certains aspects de la mémoire. Et ça me fait penser à un documentaire, vous l'avez peut-être vu, Denis Martin, avec Lady Gaga. Et, mon Dieu, ce grand chanteur Tony Bennett, qui était atteint d'Alzheimer et qui ne se souvenait pas qu'il allait chanter avec Lady Gaga, mais qui se souvenait de toutes les paroles de ses chansons.
Quand même.
C'est fabuleux comme documentaire.
Ouais, il paraît que les gens qui font ce genre de démence-là vont perdre la mémoire plus récente, mais par contre, ce qui est là depuis plus longtemps.
Oui, c'est encore là.
Oui, c'est documenté, c'est quand même surprenant. Et puis, Monique, est-ce qu'un homme peut faire des montées de lait?
Alors, la locution montée de lait n'a pas de sens figuré. Donc, dans la langue médicale, ben, elle indique simplement la sécrétion du lait maternel. Mais il n'est pas rare hein, qu'on utilise montée de lait pour exprimer la frustration et la colère engendrées par certaines situations. Chez une femme qui vient de donner naissance à un enfant, ben, la montée de lait est naturelle et parfois douloureuse, mais elle ne suscite pas nécessairement la colère. Donc, lorsqu'une chose nous irrite profondément, selon l'intensité de l'irritation, ben on pourra dire « ça m'agace, ça m'irrite, ça m'exaspère, ça me met en colère, ça m'enrage », et peut-être un peu plus familièrement ben, « ça me donne des boutons » ou « ça me donne de l'urticaire ». Donc, non, vous ne pouvez pas faire de montée de lait.
En tout cas, ceux qui en font, il faut se poser des questions.
Oui, il faut faire attention.
Ouais.